Résonance sur Radio B. Alain Goudard, bienvenue à toutes et à tous. Une émission réalisée et mise en onde par Simon Deborne. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le deuxième volet de notre rencontre avec Jean-Claude Henrique, Chominder de Lopetegui, Bichente Etchegaray, avec lesquels nous découvrons la pratique d'un instrument traditionnel du Pays Basque, la chalaparta. Nous retrouvons ces trois musiciens à Urugne, tout près de Saint-Jean-de-Luz, et ceux-ci nous font partager leur passion pour la chalaparta, cet instrument composé d'une épaisse planche assez longue, posée à plat sur deux paniers renversés en châtaigniers dressés, quelques feuilles de maïs ou des peaux de brebis servant de séparateur entre la planche et les paniers. Deux joueurs, une paire de bâtons chacun, et là, chaque mouvement des bras engendre une frappe. Le son du bois vibre et le son du bois résonne. L'origine de la chalaparta est difficile à déterminer et plusieurs versions circulent à propos de la naissance de cet instrument, de cette pratique. Jean-Claude Henrique et Chominder de Lopetegui nous ont fait partager leurs interrogations, notamment quant à l'origine de cet instrument qu'est la chalaparta. Et Jean-Claude Henrique précisait lors d'un entretien en 2011 un petit peu ce qu'il estimait être une des pistes aussi de l'origine de la chalaparta. Est-ce qu'il y a une seule origine, dit-il? On ne sait pas. Il semblerait qu'il y en ait plusieurs. En tout cas, il y en a plusieurs et pour certains, la chalaparta a pu servir d'instrument de communication. C'est une communication assez dépouillée, assez simple, du même type que la communication qu'on peut utiliser avec les cloches des églises. L'un des vieux transmetteurs évoquait, dit-il, que lorsqu'ils avaient des travaux à effectuer entre les fermes, ils sortaient la planche et ils appelaient les gens, et les gens savaient qu'il y avait un travail commun à effectuer. Fin de citation. Effectivement, Jean-Claude Henrique nous indiquait qu'au tout début, cet instrument, on le trouvait dans les fermes et que ce n'était pas justement un instrument qu'on trouvait de manière assez aisée, tout à partout. Ça restait une pratique qui émergeait donc de ces fermes et qui, comme il le sous-entendait dans cette possibilité d'origine, puisque bien entendu, il y en a plusieurs. La chalaparta pouvait servir justement de communication entre les fermes pour se donner un signal, pour s'inviter à venir, à se rencontrer et à travailler ensemble sur un travail commun. Thank you. bat, batéan ou improviser, improvisar. Une improvisation que nous font vivre Jean-Claude Henrique et Chomine Derde Lopetegui. Pour eux, l'improvisation, c'est l'essence même de la chalaparta, et ils évoquent, par rapport à cette pièce, en quelques mots, l'état d'esprit les a conduits dans cette improvisation. Ils nous disent « l'évocation de la liberté de la construction d'un morceau spontané, coup après coup, comme chacun de nous se construit, peu à peu, avec le temps et l'expérience ». Voilà, c'était une improvisation et quelques mots de Jean-Claude Henrique et Chomine de Lopetegui qui nous conduisent à comprendre ce qui les avait invités à se lancer dans cette improvisation. Vous êtes donc dans Résonance sur Radio B, la chalaparta ou la rencontre de l'autre à travers l'improvisation. La chalaparta, c'est donc la rencontre de deux singularités, de deux intelligences, de deux personnalités qui font un chemin l'un vers l'autre à travers cet instrument qu'est la chalaparta et l'improvisation. Comment on joue? Comment on se rencontre? Comment on se parle? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça exprime? Qu'est-ce que ça produit? Qu'est-ce que ça échange? Qu'est-ce que ça nous change? Qui a commencé? Quand on se rencontre avec l'autre, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qui se passe? On se met au service de qui? De quoi? Où est-ce qu'on est libre? Qui a tort? Qui a raison? On voit bien que la chalaparta, c'est avant tout une invitation à la rencontre, à l'improvisation, à l'inconnu, à l'étranger, à l'étrange, à l'imprévisible. Et je voudrais citer en contrepoint une petite phrase de Jean-Pierre Vernant lorsqu'il évoque la traversée des frontières. Il nous dit « Pour être soi, il faut se projeter vers ce qui est étranger, se prolonger dans et par lui ». Fin de citation. Improviser et s'aventurer dans la pratique de la chalaparta, c'est sortir de ses habitudes, des habitus, s'inviter à inventer, se souvenir de ce qui n'est pas encore arrivé, s'intenter autre, autrement, avec l'autre. Improviser, c'est s'improviser, nous dit Bernard Lubat, c'est donner conscience au soi doutant. Fin de citation. Et là, je vous propose maintenant de retrouver nos trois amis et de replonger dans cet entretien que nous avons vécu avec un grand plaisir à Urugne en août dernier. Alors là, on est en train d'installer une autre facette de la chalaparta où il y a plusieurs... On va avoir plusieurs planches qui sont installées de dimensions différentes. Et qui du coup, si on en dit quelques mots, comment vous ressentez cette, cette extension ou cette manière de prolonger ce qu'est la chalaparta par rapport à la planche unique de départ?
C'est très compliqué de répondre. Moi,
j'imagine.
Je crois que comme l'instrument à la base était libre, moi je suis pour qu'il reste le plus libre possible. Mmh. J'ai peur que du fait de l'écrire, du fait d'imposer des choses qui sont répétées, ça, toujours les mêmes, moi personnellement je n'en jouerai pas. Quoi, parce que ça n'a aucun intérêt pour moi. J'aurais même connu cette chalaparta là seulement au début. Mmh. Jamais je m'y serais intéressé, parce que si vous voulez, par exemple, moi chez moi j'ai un balafon, je préfère 100 fois le balafon, ou quelqu'un qui a un marimba, il n'y a pas photo, quoi, si vous voulez.
C'est ça.
Donc voilà, ma petite crainte, elle est là, c'est parce que on a eu des écoles de chalaparta avec des élèves. Et ce dont on s'est rendu compte, c'est que la plupart des élèves ne continuent pas. Parce que cette chalaparta musicale, comme elle devient un instrument de musique, elle est très difficile. C'est un apprentissage qui est comme la guitare ou la trompette ou le trombone ou le piano, comme tous les instruments. Ça demande 2, 3 heures ou 4 de travail par jour.
Très intense, oui.
Si on veut atteindre des sommets, après on peut juste s'amuser. Hein. Mmh. Mais c'est vrai que c'était là... c'est l'histoire de la guitare. Hein. Vous pouvez jouer Jeux Interdits, vous faire plaisir, mais après, si vous voulez jouer Villa Lobos, c'est une autre tisane. Quoi. Ouais. Et donc, du coup, on perd beaucoup de pratiquants. Mmh. Alors, c'est les deux côtés. Hein,
c'est ça.
Parce que la chalaparta traditionnelle, elle est intéressante pour ceux qui jouent. Ceux qui jouent peuvent se faire plaisir. Ceux qui écoutent, c'est pas évident, à part de vraiment connaître un peu, avoir l'oreille par rapport à cet instrument. Donc je conçois que celle-là ne séduise pas les gens qui la voient ou qui l'écoutent, et que l'autre, par contre, séduit parce qu'elle crée des mélodies, etc. Et donc on est dans un dilemme. Donc qu'est-ce qui est mieux ? Alors moi, d'un côté, je me dis, bon, que déjà à travers la nouvelle chalaparta, disons, à 5, 6, s'intéresse à la chalaparta, c'est peut-être une bonne chose. Mmh. Si à côté, ils peuvent être curieux et découvrir l'autre.
Les amener à l'origine même de la chalaparta.
Pourquoi pas, mais bon, j'y crois pas trop. Donc voilà, c'est la vie, hein, des instruments qui vont disparaître.
C'est sûr que je trouve que ce que vous soulevez, la problématique que vous soulevez est vraiment intéressante, parce que... Effectivement, avec, on va dire, la planche originelle, on est vers le monodique. On est vers quelque... je minore un peu ce que je viens de dire, mais parce qu'on a entendu avec toute la subtilité, quand vous avez joué l'un et l'autre, vous, Jean-Claude et Chemine tout à l'heure, toute la subtilité, la diversité du son que vous avez pu faire sortir de cette unique planche. Je pense aussi qu'on est dans une massification aujourd'hui d'une culture musicale qui fait qu'on n'a plus la patience, aussi quelque part, je pense que ce terme peut être là, de faire qu'une écoute est une écoute active et pas une écoute consommatrice. Et le fait que peut-être de rajouter des éléments mélodiques font qu'effectivement ça se raccroche à tout un univers musical que tout un chacun entend journellement, quels que soient les milieux, quelles que soient les formes, et que d'être revenu à une forme de simplicité monodique qui nous renvoie à des pratiques très lointaines, pose beaucoup de soucis parce que effectivement le zapping qu'on nous propose aujourd'hui fait qu'on est désorienté entre guillemets, alors que, et c'est là je pense qu'elle a tout l'intérêt, c'est que finalement cette pratique de la chalaparta nous ramène à l'essence même de ce que peut être la musique et ce que disait Chemin tout à l'heure me semble encore extrêmement important, le rapport de deux individus et voilà, la coexistence de deux individus.
Ça c'est une des choses les plus intéressantes dans la chalaparta, quoi. C'est que c'est un dialogue. Même avant de jouer, nous, quand on jouait, on parlait beaucoup avant. Non pas qu'on allait faire do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, mais qu'on allait parler des potions dans la montagne, qu'on allait parler du métro à Paris, enfin, vous voyez, des choses de la vie, ou même de nos sentiments personnels, ou du dernier livre qu'on a lu, et après essayer d'interpréter une émotion sur cette planche, quoi. C'était ça l'idée. Bon, après, moi, franchement, votre question, c'est dur d'y répondre.
Oui, tout à fait.
On a des exemples. Moi, j'ai l'exemple du balafon. Entre le balafon traditionnel, qui était un instrument qui parlait et qui racontait la vie d'un défunt ou d'un personnage, et le balafon d'aujourd'hui, qui est diatonique, bon, c'est sûr qu'il y a deux mondes, quoi.
C'est clair.
Il y en a un qui est presque mort, à part les films du Gozemp, un ethnologue qui a fait des jolis films là-dessus, je crois que...
Ah, c'est magnifique, hein, je les ai tous d'ailleurs,
Par exemple. Donc,
vous avez vu ces femmes qui tapent dans l'eau aussi, c'est formidable.
Voilà, tout ça, ça disparaît, c'est peut-être comme le monde est comme ça, je ne sais pas. Peut-être ça réapparaîtra là. Si un jour où il n'y aura plus d'électricité, plus rien, et que tout sera pelé, peut-être qu'on aura besoin de la chalaparta pour remplacer le Wi-Fi. Que nous avons inventé le Wi-Fi d'ailleurs ici, grâce à la chalaparta.
Alors du coup, cette petite...
Bichette, respire.
Comment va-t-on l'appeler ? On va garder le nom de chalaparta quand même s'il y a plusieurs...
Oui, alors chalaparta, c'est même pas le nom de l'instrument, c'est le nom d'un rythme, quoi. On joue chalaparta.
C'est ça, c'est plus l'évocation d'un phénomène rythmique qui donne le nom.
Normalement, c'est ça, donc c'est pareil, chalaparta.
Donc la Chemine a installé maintenant quatre nouvelles planches. Et donc, du coup, forcément, on va quelque part un peu vers l'harmonie, on va vers le mélodique. Qu'est-ce qui est plus développé ? Est-ce que c'est principalement le mélodique ou est-ce qu'on va aussi faire dans le jeu, faire apparaître des notions d'harmonie éventuellement ?
Bon, on va répondre en jouant, mais on va rester dans l'esprit de Chalaparta. Hein.
C'est ça.
Mais vous allez voir que déjà, les plages sont plus petites.
Oui, tout à fait. Elles sont posées donc sur des tréteaux pour
pouvoir
avec des mousses qui permettent de faire l'isolant aussi.
Et un peu plus donc
un peu plus haute.
Elle est un peu plus haute, donc les bâtons sont plus petits.
Et les bâtons sont plus petits. Ouais. Est-ce que les bâtons sont toujours dans la même essence de bois que tout à l'heure ?
Non, alors
c'est autre chose.
Ça peut être n'importe quel bois, c'est pareil, mais bon, on va plutôt privilégier des bois assez denses.
C'est ça.
Le frappé est un peu plus sec. Mais bon, c'est chacun à ça. Il y en a qui préfèrent des bâtons plus petits, plus légers, d'autres plus lourds.
Mais donc là, il n'y a pas de...
C'est pareil, c'est empirique, c'est chacun à ses... Non, après, quand on joue à deux, c'est bien d'avoir les quatre mêmes bâtons.
Oui.
Pour avoir le même équilibre sonore.
C'est ça.
Mais on peut jouer sur des différences. Esprit. Un qui joue avec des bâtons plus légers. Ou alors on va avoir la main gauche avec le même bâton et la main droite avec l'autre. Mais bon, là, on va... C'est sur ça. Des expérimentations. Mais bon, à la base, c'est des petits bâtons.
Et là, on voit que nous avons quatre planches. Elles sont presque identiques, à quelque peu dans la distance. En tout cas, bon, il y a quelques petites différences. Comment elles ont été choisies, finalement, ces quatre planches ?
Alors,
au hasard
Or, des fois, c'est on va prendre au hasard des planches, on va tester.
Bon, je garde.
On va mettre une autre.
C'est ça.
On va développer des jeux ou des improvisations sur certains assemblages. Il y en a qui vont nous plaire, d'autres non. On va être des fois, on va faire que changer. Et bon, c'est là, on les a beaucoup utilisés avec Jean-Claude. Et voilà, on a des. Non, ça dépend des jours, mais des fois, ça se peut pendant 2 ans, on va jouer sur la même Chalaparta.
C'est ça.
Il y aura quelques changements des fois, puis un jour, on aura marre, on va changer les planches.
Peut-être on vous écoute tous les deux à nouveau, nous faire découvrir cette nouvelle facette à ce moment-là. Voilà.
Donc, oui, allez-y. Ça sera un peu plus... Là, on a vraiment joué trad sur le Chacoun avant. Et on va voir que déjà, les planches, le fait qu'elles sont différemment, on va jouer différemment. C'est comme si on se mettait sur un piano.
C'est ça.
Et on passait à un orgue, par exemple.
Où, donc là, on a un autre jeu, un autre toucher.
C'est pas pareil, voilà, le toucher est différent, le son est différent, on va aller vers autre chose. Donc le jeu va être complètement différent.
On vous écoute. Thank you. Formidable. Puis alors, le son qu'on n'attendait pas à la fin, voilà. Avec la baramine, une baramine posée à côté des. Justement, qui juxte les quatre planches et qui arrive dans cette. Donc ça veut dire que là, finalement, on s'ouvre aussi à une matière différente, on passe du bois au métal.
Voilà. C'est alors, j'essaie de tout abréger dans la transition dans ce jeu. C'est qu'on a recommencé, on va finir à la barre, c'était aussi un appel à Jean-Claude qui voulait, il voulait faire un petit morceau.
Mais oui.
Donc du coup, on a commencé un chacune. Enfin, non, non. On a commencé par un coup chacun.
Oui, c'est ce que vous avez fait l'un et l'autre.
Voilà. On a un peu, les frères Arce, il y a beaucoup de jeux qui ont commencé par le Kun-Kun. Un équilibre simple.
Trouver l'équilibre tout de suite.
Voilà. On a commencé sur le Chakun, et après par la vitesse, il y a une magiquement, on est passé sur des coups un peu plus équidistants. Donc le Chakun beaucoup plus ouvert. Mmh. Et là, ça, voilà, ça déballe un peu. Les anciens, quand ils jouaient trad, Chakun, à un moment avec la vitesse, mais le Chakun restait ouvert, il pouvait plus se rétrécir. Donc ça fait que des coups équidistants qui se déballent. Donc là, c'est pour faire un peu cette transition après vers le Chakun ouvert, un peu plus musical. On peut jouer sur voilà. Donc c'était une légère transition et après voilà, j'ai mis la barre de fer pour un petit appel à Jean-Claude. Donc rajout de planches et de matière dans le temps aussi.
C'est ça l'histoire. En tout cas, c'était beau de l'entendre sonner cette baramine après cette tout ce développement qui était magnifique. En tout cas, ce jeu de on a même une seule personne qui joue quoi finalement, tellement que vous arrivez à être dans une complicité.
Et ça le but, de toute façon, à deux, voilà. De faire le même cheval, quoi.
C'est ça.
Qu'on n'entende pas. C'est presque, il ne faut plus qu'on entende Bichente là, et Chumin, il faut qu'on entende les deux ensemble.
Quel est l'individu que ça fabrique à tous les deux, quoi, finalement. Ça c'est passionnant. Ça.
Ah oui, c'est.
Jean-Claude, vous vouliez nous faire entendre quelque chose.
Oui, c'est cette fameuse barre. Alors c'est une baramine, c'est vrai, mais traditionnellement, c'est une barre de fer, tout simple. Ouais. Et parce qu'au Pays Basque, il y avait un jeu traditionnel, où le lancer de barre. Ah, c'est un coin un peu sauvage ici. Hein. Ah. Vous pouvez vous prendre une baramine au coin de la rue. Et ensuite, on s'en servait beaucoup pour les carriers, parce que les maisons étaient faites en pierre, donc tous les carriers avaient des grosses barres en fer, très plus grandes que ça d'ailleurs. Et aujourd'hui, il existe toujours des concours de je ne sais pas comment appeler ça, enfin, ils utilisent une baréna, ce qu'on appelle une baréna, très grande, très, très lourde, et ils creusent des trous dans le marbre. Ah, et oui. Ils font des concours, il faut faire 12 trous le plus vite possible. C'est très dur, c'est énorme. Oui, il y a des musiciens qui se sont inspirés de ces rythmes, parce que au bout d'un moment, il y a des rythmes qui sortent et qui ont créé entre la charaparta, la baréna, le truc et ça. Donc, si vous voulez, c'est quelque chose qui est traditionnel chez nous. De plus que lorsque les travaux de la maison, en tout cas la partie de la pierre était finie, les carriers avec leurs barres initiaient des petits rythmes et chantaient, petites chansons pour fêter la fin de leurs travaux. Ce n'était pas la fin de la maison. Les charpentiers, eux aussi, une fois qu'ils avaient fini la charpente, ils tapaient sur les grandes poutres, enfin une grande poutre qu'ils avaient gardée au dehors, et ils initiaient aussi des petits rimes avec un petit chant. Bon, tout ça, ça s'est effacé de la mémoire.
Ouais,
on l'a retrouvé en Suisse.
C'est précieux, ça.
On l'a retrouvé en Suisse. C'est-à-dire, en Suisse, on a retrouvé... y compris aux sorties de l'église, une grande planche posée au sol et deux enfants de chœur qui tapaient avec des gros maillets. Parce que donc, et ici ça existait évidemment, c'est qu'à l'époque de Pâques, le jour du jeudi saint, on ne se faisait plus sonner les cloches. Et à ce moment-là, on jouait sur du bois. Donc la charaparta aussi a fait partie de ce processus. Oui, tout ça, ça se mélange, je ne sais plus retrouver les sources exactes, quoi. Mais ça fait partie de ce tout. Et la baréna, c'est pareil, on s'en servait aussi pour la nuit de noces dans les villages. Les amis du mari ou de la mariée venaient faire une petite sérénade le soir du repas de la veille, enfin le soir du repas de la nuit de noces, il venait faire une petite sérénade, et il jouait sur une barre comme ça, et il s'accompagnait pour chanter des cantilènes. Et c'était assez. Ça a même été interdit parce que les jeunes qui étaient souvent coquins, lorsqu'il y avait des mariages, comment dire, c'est un vieux qui épousait, un vieux riche qui épousait une jeune, bon, ben il venait, et là ça devenait des choses plutôt satiriques, quoi. Voilà. Mais, donc ça fait partie, oui, de la culture de ce pays. Bon, évidemment, ça s'est perdu. Même s'il y en a qui en jouent encore des fois dans les mariages ou... Enfin, nous, on en a joué tout le temps, hein, de la baréna, de la barre de fer. Ouais, bon, on peut jouer un petit morceau, mais ah, bon, mais ça va...
Allez-y, Jean-Claude, je vous en prie.
T'as les barres. Mais après, ça va ressembler un petit peu à ce qu'on avait fait.
Et ça fait...
T'as pas de mousse? Non. T'as pas de mousse? Ah, ouais. À part celle-là?
Bon, on joue comme ça, tu
vois. Ouais, on va jouer comme ça.
Ouais, je vais juste parce que là, ça...
Ça, ça tape, hein, mettez-vous voir. Parce que...
Hey, tout autre univers, hein, tout autre univers. Mais on reste, je trouve, bien dans cette même philosophie.
Ah, oui, là, on a joué dans l'esprit Chakun Chakun. C'est un jeu comme ça. Il y a dans certains villages, comme Aliskun, ils ont d'autres jeux. Et y en a un qui va plus jouer sur une espèce de ternaire. Et là, on coupe très serré. Il y a des petits jeux différents. Dans le même esprit, tu as l'aparta.
C'est ça. En tout cas, c'est très chouette d'entendre sonner une barabine et toute la qualité qu'elle peut avoir. Puis avec ce que vous disiez tout à l'heure, hein, Jean-Claude, ce rapport à certains ouvriers de la maison et tous ces liens aussi très liés à la vie quotidienne, au travail et à l'importance qu'il y avait justement quand on fabriquait quelque chose, quoi, hein. Et puis alors le jeu de lancer de baramine aussi, effectivement, qui fait appel.
Là, c'était un jeu qui était vraiment pratiqué. Hein.
J'imagine.
Il y a des photos.
Donc un peu comme le javelot ou quelque chose comme ça.
Non, parce que le jeter comme ça. C'est plus comme ça.
Ah oui.
Plus de façon, horizontale par rapport au... Non, verticale par rapport au corps. Et
c'est
le
ça.
Le plus impossible.
Le plus impossible.
Mais ça a été repris, je crois, dans les pays du Nord. Hein, vous savez, les hommes forts, quoi.
Oui.
Les, dans ces concours de ce style-là, quoi. Donc ça se pratiquait, il reste des photos, bon, ça fait des années qu'on ne le fait plus, il y a eu trop de blessés.
Ouais,
trop
aussi, voilà, c'est ça. Ouais. Voilà. ça veut dire aussi que si on regarde en termes de pratiquants aujourd'hui, on disait que c'était quand même quelque chose qui était bien revenu entre guillemets au bout du jour, mais ça veut dire qu'il y a beaucoup de pratiquants aujourd'hui de la Chalaparta au Pays Basque dans ces différentes régions, où c'est ciblé peut-être à un endroit particulier.
Ouais, c'est un peu éclaté.
C'est un peu éclaté.
Oui, maintenant, il y en a un peu partout. Mmh. Alors, combien de joueurs il y a, c'est toujours pareil, comme disait Jean-Claude, c'est... Il y en a, ils vont jouer, on va les voir peut-être deux fois dans l'année dans c'est des événements à la Porta, on peut se dire qu'ils jouent toute l'année, d'autres qu'on va jamais voir, mais en fait, ils jouent entre eux deux, trois fois par semaine, on ne sait pas. En fait, on ne le voit pas, mais après, il y a de plus en plus d'écoles, oui. Et dans les, même dans les écoles, il y a de plus en plus. Il y a de plus en plus de Chalaparta.
Est-ce qu'elle reste enseignée quand même dans l'esprit que vous dépeigniez tout à l'heure?
Alors, beaucoup moins.
Beaucoup moins.
Aujourd'hui, elle a quand même été très axée dans le...
Parce qu'on pourrait imaginer qu'au conservatoire de Bayonne, par exemple, se trouve la Chalaparta et qu'on la joue dans l'esprit que vous dépeignez.
Alors, tout dépend du professeur. Ouais. Ça, c'est toujours pareil. Tout dépend de quel professeur et sa vision. Ouais. Alors, il y a beaucoup de personnes qui sortent de l'école d'Hernani, qui ont le niveau, on va dire, dans... On parle des gens qui jouent Chalaparta, qui ont un certain niveau, c'est-à-dire qui jouent pas mal, qui ont beaucoup joué, mais ils sont sortis de l'école d'Hernani, qui est quand même très, bon, on va dire, scolaire.
Ouais.
Donc, vulgairement, ce serait le Dante Agostini du Chalaparta. Mmh. Je ne sais pas comment le dire.
Oui, je vois.
À peu près.
À peu près, voilà.
Donc, du coup, il y a beaucoup de personnes qui sortent de là, donc ils vont quand même garder cet enseignement-là. Donc, quand même très écrite, musicale, explicative, des coups... On est loin de la philosophie Chalaparta, tu sais. Il y en a, mais après, il y aura toujours une petite part dans cette philosophie. Même certains qui vont être très carrés, qui ne vont pas comprendre ce monde-là, ils vont quand même ils vont laisser ce côté mystique, ils vont utiliser ce côté mystique pour mettre la Chalaparta en avant, même s'ils ne comprennent pas. Mmh. Et voilà, tout dépend du niveau de chacun. On peut très bien jouer de Dante Agostini, mais être complètement ouvert à l'autre. Mmh. Ou que ce soit juste une expérience, quoi, le Dante Agostini.
C'est ça.
Si on en revient aux arts martiaux, c'est pareil. Il y a la philosophie, la recherche du milieu, du corps, la respiration, et après il y a la compétition. Je vous sais qu'il nous disait, faire de la MMA, par exemple, tu fais du Kempo, du Yosikan, tu veux faire de la MMA, mais c'est un peu comme dans la vie, tu as envie de faire du soin élastique. Pourquoi pas. Mais c'est pas une fin en soi, quoi. Mais pourquoi pas, mais ça fait partie de l'art ou de l'instrument.
C'est ça.
C'est faire autre chose. Mais c'est pas là le nectar. Mais là, je joue avec Bachavi, c'est avec un ensemble classique. Mmh. On fait des musiques, bon, un peu de musique de film.
D'accord.
C'est dans cette ambiance-là, mais c'est intéressant de travailler avec des musiciens classiques.
Bien sûr. Ouais,
voilà, puis on parle de musique, là.
Mmh.
Mais, mais là, je parle pas trop de Chalaparta.
C'est
ce qui va faire marcher le groupe. Chalaparta et devant Pierre, ouais, tout ça. Ça peut être joli, ça peut être joli, la matière, ouais, ça sonne. Mais on est loin de la Chalaparta, de qu'est-ce qu'elle est, quoi, qu'est-ce qui se passe. Mais c'est toujours intéressant de faire ça, mais on n'est pas, pour moi, on n'est pas dans...
C'est ce que vous disiez aussi, est installé aussi dans la salle, on pourrait dire aussi un clavier autre.
Voilà.
Alors là, vraiment, un clavier
aussi. Un lithophone.
Un lithophone, on est carrément dans le lithophone. Mmh. Hein. Avec l'ardoise et c'est une continuité, on entend bien, c'est pas la Chalaparta, c'est autre chose.
Mais c'est la continuité du fait qu'on a écrit, on a cadré, on a fait une écriture Chalaparta, on reste dans le principe du fait qu'on soit deux et qu'on divise la partition en deux.
C'est ça.
En essayant d'être le plus équilibré possible dans la partition. Après, bon. Choisir comment répartir la partition, en tout cas. Donc là, c'est tout simplement on prend la partition, on divise en deux, et puis là chacun met ses notes.
Vous répartissez,
et voilà. Finalement. Donc la difficulté, un peu la particularité, c'est de faire la marche tire, ti ti de ti 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 ta da tout.
C'est ça.
Qui joue, on répartit toutes les notes. Donc la partie de chacun va être complètement, ça veut rien dire. Mais il faut le faire ensemble, donc c'est juste cette difficulté-là, ce petit côté un peu... Ouais. Oui. Ça aurait pu être une expérience de marimba. Ou de...
C'est ça.
Mais d'ailleurs, Steve Reich, ils ont fait plein de choses de cet ordre-là.
De cet ordre-là, absolument.
Ah, ouais. Mais quand on voit même le truc des... Comment ça s'appelle les 18 musiciens, là.
Capin?
Non, Steve Reich.
Oui, c'est ça. Alors, je n'ai plus le nom exact, mais pour 18 musiciens, voilà, c'est un
bon œuvre. Genre, tout ce qui se passe entre le piano, les marimbas, mais il y a plein de Chalaparta.
La question de déphasage.
Voilà, le déphasage, voilà.
Voilà. C'est vrai qu'on entend ça, et je comprends que Steve Reich, entendant aussi ce que fait, ce que donne Nigel Aparta, soit complètement intéressé, puisqu'avec son idée de déphasage, le jour où il a fait l'enregistrement de deux trains, des décalés légèrement, il s'aperçoit qu'effectivement, tiens, la notion de déphasage est intéressante. On l'entend complètement à un certain moment donné, quand vous étiez dans le rythme commun et que petit à petit, il y a quelque chose qui se met à glisser, on approche cette partie de déphasage aussi.
Et bien c'est, avec Jean-Claude, à un moment, on a commencé à travailler ça. Mm-hmm. Et, c'est-à-dire que bon, les frères Arce le faisaient, mais un qui reste chacune et l'autre va se rapprocher de lui. Donc on va jouer sur les déphasages, mais ça peut être les deux qui bougent, ça peut être un qui tourne autour de l'autre, ou un seul bâton bouge. Alors on va jouer sur ces déphasages là mais du coup en musique c'est impossible de faire, dans un truc écrit avec des violons, tu peux pas faire ça, c'est, on est dans autre chose, donc on parle déjà de possibilités, déjà on voit que c'est complètement restreint de prendre une partition et de bon, c'est comme je dis, c'est un délire, c'est un trip, c'est
pour faire est-ce que ça veut dire aussi parce que quand, ici on est dans le Pays Basque, on est à Urugne, on enregistre cette émission, la voix aussi prend une place prédominante. Est-ce qu'il arrive que des vocalistes viennent aussi improviser avec vous, se joignent à la Nigel Aparta, ou c'est quelque chose qui n'existe pas, dire bon, la voix se fait de son côté avec d'autres instruments traditionnels, mais est-ce qu'à des moments donnés, des chanteurs viennent se mêler à vous et improviser c'est pas quelque chose
ça, c'est alors. Oui, ça s'est fait. Oui, ça s'est fait. Oui, bien sûr. Ah, mais bien sûr. C'est ce que je veux dire, ça s'est fait beaucoup. Alors, Oui, ce que j'allais dire. Non. On a beaucoup fait, autant avec des chanteurs que des danseurs, des peintres, des poètes, des sculpteurs. Alors, on a beaucoup joué avec Jean-Claude au festival et Rubico Festivala, donc avec le chanteur Benyatta Chiari, par exemple. Du coup, on a fait pas mal d'improvisations avec Benyatta, donc tout est possible. Dans la liberté qu'on lui laisse à Nigel Aparta, c'est ouvert vraiment à tout.
Et la fille a...
Jean-Claude, vous vouliez rajouter?
Non, parce qu'on avait fait un truc avec une fille, c'était magnifique.
Ah, Nathalie?
Ouais, voilà, Nathalie. Là. C'était une impro sur le camp de Gurs, qui était un camp où on a recueilli, je ne sais pas comment dire, des réfugiés, quoi.
Oui, hein.
Et c'était une improvisation sur un film fait par une école. Et là, il y avait une chanteuse, et elle s'est mise à chanter avec nous. Et c'était magnifique, elle avait une voix, c'était super. Ah. Mais oui, ça s'est fait, y compris par d'autres.
Benyatta Chiari étant assez connu parce qu'il a voyagé dans pas mal de régions, et c'est un des chanteurs qu'on connaît beaucoup.
Oui,
et on sait que l'improvisation,
il improvise beaucoup.
C'est son endroit.
On a fait que des poètes à Toulouse, Serge Pey, qui est un superbe poète, qui connaissait l'instrument, donc qui est bien rentré dedans. D'ailleurs, on a failli le tuer parce qu'on jouait trop vite. Il essayait de nous suivre, c'était terrible. Le pauvre, c'était... Des danseuses aussi contemporaines. Ouais. Il y en a une qui a fini couchée sur la chambre par terre. On l'a fracassé à coups de bâton.
Que d'épisodes et d'aventures, finalement. On voit que Nigel Aparta, donc, comme on disait déjà un petit peu tout à l'heure, c'est un endroit de rencontre, finalement. Grâce à ce côté d'improvisation, d'ouverture à l'autre, c'est vraiment un instrument qui provoque la rencontre, finalement.
C'est ça. C'est... Avec n'importe qui, n'importe quoi, ça peut être ouvert à une... Ça va de tout seul à deux dans la montagne, devant plein de gens, à faire partager l'instrument, une découverte. Il n'y a pas de limite, en fait.
Et est-ce que ça veut dire, on évoquait un peu disque tout à l'heure à propos de Luis de Pablo, du compositeur qui s'était intéressé à la Nigel Aparta et l'avait intégré dans une de ses œuvres, est-ce que ça s'enregistre un peu, cette forme de musique de Nigel Aparta, ou ça reste que dans le moment du spectacle vivant, du moment direct?
Non, il y a eu des enregistrements, oui. Bon, pour commencer, les frères Arce dans les années 60.
Ont beaucoup enregistré.
Voilà, ils ont déjà enregistré. Il y a un disque, par exemple, qui a été enregistré à Milan. Donc il y a trois morceaux, ils sont très... Nous, on adore ces morceaux, ils sont très, très intéressants. Il y a un peu toute la vision qu'on voit dans la liberté d'Nigel Aparta. Bon, donc ça a commencé là, et c'est des Japonais qui le rééditent en plus aujourd'hui.
Ah oui,
ouais. Avec la pochette, c'est qui est en japonais et en basque.
C'est vrai.
Donc c'est hallucinant, ils ont fait un gros travail, les Japonais. Donc, oui, c'est... Attends, je me rappelle plus de la question. Du
coup, non, mais...
Le disque enregistré. Ah, le disque enregistré, voilà. Non, oui, il y a eu des disques. Après, le frère Artier, Beltran avait enregistré les disques. Et il y a eu plein de pères. Donc, il y a les frères Ougarté qui ont enregistré. Il y a un groupe qui s'appelle Oreca TX aussi. Mm-hmm. Bon, c'est le premier à avoir fait un disque avec des pierres. Donc, à faire un disque un peu mélodique, produit avec des synthés, des collaborations, d'autres percussionnistes. Donc, c'est un peu les... Bon, ils avaient fait un film aussi, ils avaient fait le tour du monde. Donc, voilà. Ils sont un peu le plus connus médiatiquement. Après, bon, il y a eux. Avec Jean-Claude, on est sorti en CD aussi. Ah. Un peu à la fin de notre parcours, on voulait enregistrer. Donc, on a pris plusieurs enregistrements à improviser qu'on avait fait. Voilà. Calacan ici présent. ils ont mis de la Chalaparta.
Sur la bec,
voilà.
Ah, les Sur la bec aussi, ils sont aventurés aussi à mettre la Chalaparta.
Sur le Boléro.
Ouais, sur le Boléro.
Ah, sur le Boléro de Ravel.
Ils avaient fait l'ostinato sur
la Chalaparta. Et oui, ce qui est une manière de remplacer la caisse claire, de donner une autre couleur finalement. Peut-être que Ravel y avait-il pensé, on ne sait pas.
Je crois pas, non.
Mais je pense pas.
Non, il parle pas de Chalaparta, Ravel, déjà. Ouais. Il n'y a pas de... Non.
Oui, on sent pas ça.
Il n'a pas beaucoup flirté à la musique basque. Un peu, mais... Non, mais sorti
ça ne s'entendait pratiquement pas.
Ça ne s'entendait pas, non.
À part dans quelques fermes, il risquait pas de
l'entendre. Il risquait pas de l'entendre.
Mais comme vous, aujourd'hui, c'est très rare de l'entendre.
Hein. Bah, complètement.
Et à l'époque... parce qu'il est passé beaucoup d'ethnomusicologues. Hein,
j'imagine
l'américain, je ne sais plus son nom.
Lomax,
l'américain, il est passé... Pourtant, il parle plein de trucs, pas un mot sur la Chalaparta.
Ah bon,
des chercheurs du CNRS des années 37,
pas un mot
sur la Chalaparta. Pour les années 37, en 37-38, à Cibourg, il y avait deux frères qui jouaient Chalaparta, parce qu'ils étaient des réfugiés qui étaient venus de l'autre côté, après 33-36. Et ils en jouaient, mais... Je suis sûr qu'il n'y a personne à Cibourg qui peut vous dire j'ai entendu de la Chalaparta en 36 ou 37. Donc un est le père de Légas, le chroniqueur culinaire, là, Marc. Non, le père c'est Marc. Et lui c'est Perico Légas. Hein, Perico. Donc j'allais discuter avec lui, oui, effectivement, il se souvient qu'il y avait cet instrument chez lui, mais...
Et sans plus, quoi.
Non, et puis bon, beaucoup... Je vous dis, c'est comme cet instrument qui, à l'écoute, n'est pas toujours intéressant ou séduisant ou mélodieux. Les gens partaient dans un coin, ils en jouaient pour se faire plaisir entre eux, ou chez eux, s'ils ne voulaient pas être entendus. Et donc, du coup, tous les gens qui sont passés, il y a eu beaucoup, hein. Il y a Humboldt, l'allemand, enfin, tous les textes, parce que moi j'ai recherché plus de sources possibles et on ne trouve rien. On ne trouve même pas d'iconographie.
Ah oui, donc effectivement.
C'est quand même curieux.
C'est quand même curieux. On ne
trouve pas une image ancienne où il y a une Chalaparta.
Est-ce que vous croyez que,
c'est curieux.
Par rapport à toute la philosophie dont on évoquait tout à l'heure, que c'est peut-être une des raisons parce qu'elle génère quand même une liberté, parce qu'elle génère...
Non, moi je crois que c'est
une méconnaissance purement.
Ben, je crois que c'était pas du tout ce qu'on croit aujourd'hui. Je crois que c'était juste quelque chose qui servait à appeler ou à signaler quelque chose.
C'est ça, c'était fonctionnel.
Y compris la barre de fer, quoi, d'ailleurs.
C'est ça.
Parce qu'il n'y avait pas de téléphone. On n'imagine pas qu'il y a eu une époque où il n'y avait pas de téléphone.
Bien sûr.
Et dont le seul moyen de communiquer... pour l'ensemble des gens, c'était les cloches. Mais les cloches, les petits villages n'en avaient pas.
Oui,
et les fermes encore moins.
Et encore moins.
Donc là, ils avaient un truc très rudimentaire.
Qui permettait de communiquer.
Quand on dit communiquer, ils ne philosophaient pas. Hein. C'était con, il faut que tu... Tiens, il appelle, allons voir ce qui se passe. Moi, je crois que c'est ça. Après, bon, on a fantasmé sur plein de trucs. L'histoire des pommes, oui, pourquoi pas, c'est vrai, ça existait. Mais par exemple, le pays juste à côté voisin du Pays Basque, Les Asturies, par exemple, ils ont les mêmes instruments que nous pour pressage des pommes. Ils n'ont jamais joué dans Chaaparta. Donc, bon.
C'est la question que j'allais vous poser. Côté espagnol, on ne retrouve pas du tout cette utilisation-là. Si on prend le Pays Basque jusqu'à...
L'utilisation du pressage.
Non, de la Chaaparta.
Ah non, mais on la retrouve essentiellement du Pays Basque Sud. Hein. Ici, c'est anecdotique.
C'est anecdotique.
Même si elle a dû exister, mais complètement oubliée. Mais exister en tant que juste instrument pour signaler un truc ou aider... Ou même initier, vous savez, les réflexes de Pavlov pour donner à manger aux animaux, hein, tout connement. Hein. D'ailleurs, on tapait sur du bois et les animaux, ils savaient qu'ils avaient à bouffer à ce moment-là. Mmh. C'est des trucs tout bêtes. Après, le mystère, c'est comment deux se sont mis à jouer. Mmh. Et il y a un autre mystère là-dedans. Enfin, moi, c'est Arce qui m'a beaucoup parlé de ça et je le comprends, ce qu'il dit. C'est juste ce coup très simple qui est le tchakoun. D'ailleurs, c'est deux coups, tchakoun. Déjà, il y a plein de questions à se poser. Est-ce que c'est le tcha qui est plus fort que le kun? Est-ce qu'il faut marquer le kun? Est-ce que entre le tcha et le kun, il y a une microseconde ou trois? Non, finalement, c'est libre. Chacun a un tchakoun. Donc déjà, ça fait une grande personnalité à la Chaaparta.
Tout à fait.
Chacun va développer son tchakoun. Et son tchakoun, il ne le fera jamais pareil. Comme le battement de cœur. Ils ne sont pas toujours tout à fait les mêmes. Quoi.
Tout à fait.
Ouais, ils varient, etc. Alors, malheureusement, ça, ça y est, c'est perdu. C'est-à-dire, aujourd'hui, on joue le binaire.
C'est ça.
Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta.
Oui, oui, oui. C'est ça.
Et le tchakoun, c'est un grand mystère où beaucoup de gens ne savent pas si c'est du ternaire, pas du ternaire. On a posé la question à plein de profs de percussion, de conservatoire, est-ce que c'est un ternaire ici? Oui, parfois oui, parfois non. Oui, mais même le tchakoun, puisque le tchakoun s'inspire beaucoup, peut-être du battement de cœur. Mais là, il y a un truc voilà, assez extraordinaire et universel, presque, parce qu'on peut le retrouver ailleurs. Les papous jouent sur un tronc évidé.
Évidé, oui, tout à fait.
Et ça s'appelle le galamut.
On pourrait trouver des similitudes.
Ah, mais ce n'est pas une similitude, le garamut. Il y a certains moments où il joue comme nous, on peut jouer. Quoi.
C'est ça.
Sauf que bon, c'est moins diversifié, ça reste toujours un peu le même rythme. Et il joue l'un sur l'autre à certains moments. Pratiquement, chaque trois coups, il joue l'un sur l'autre. Mais ce battement de cœur, il est universel et on va le retrouver sûrement dans toutes les percus, dans toutes les musiques. Et nous, ce tchakoun, hein, pour moi, c'est une des beautés de cet instrument. Quoi.
J'imagine.
Ça et une très belle planche.
C'est ça, oui, voilà, parce que c'est ce qui va donner
Et pas une poutre.
Ça, c'est important. La qualité, quand même, de l'instrument de départ.
Nous ne sommes pas des poutristes,
quand
monsieur.
Même.
Non, c'est la recherche de la planche.
Bien sûr.
Moi, j'ai une planche chez moi que j'ai du mal à abandonner. Un jour, je crois que je la transmette, mais on me l'a moi-même transmise. Et...
Oui, donc elle est chargée de plein de choses.
Ah, ben, c'est une belle planche. Tchoumi, il la connaît. Et on joue quand même pas pareil sur ces... Oui, parce que pour parler des planches, vous voyez, les frères Arce que John Cage a vu, que Steve Reich a vu et d'autres ont vu jouer, leurs planches, quand même, elles faisaient entre 20 et 25 kilos.
Ah oui.
Pas pour vous situer le truc.
On n'a pas parlé du poids tout à l'heure.
Non, mais parce que maintenant, toujours pour la même question, c'est que le bois coûte cher.
Bien sûr. Deux,
s'il est lourd, quand vous avez quatre planches de 25 kilos, ça fait 100 kilos.
C'est ça. Ça commence à faire.
Ça commence à faire. Donc, bon, on simplifie. Mais on perd toujours beaucoup. On perd de la vibration.
C'est ça. Oui, parce que le bois, il a sa densité pour résonner.
C'est la vibration, que la résonance.
Oui, juste la vibration.
C'est pas pareil. La vibration, ça commence à vous rentrer dans les avant-bras, à travers le bâton.
C'est ton corps qui se met.
Et là, ça rentre et là, ça fait des choses. Waouh, waouh.
Résonance sur Radio B, la Chaaparta ou la rencontre de l'autre à travers l'improvisation. Un grand merci à Chaumine, Derde Lopetegui, Jean-Claude Henrique et Vicente Echegaray pour nous avoir guidés, accompagnés dans cette découverte de la Chaaparta, cet espace rythmique ouvert à la rencontre humaine et musicale. Jean-Claude Henrique évoquait au cours de cette interview notamment l'intérêt que provoquait la Chalaparta auprès de certains compositeurs contemporains. Et il citait notamment le compositeur Luis de Pablo, né en 1930 à Bilbao, qui a imaginé une œuvre, Poema de Madeira, composée pour Chalaparta, percussion et ensemble vocal, une œuvre dirigée par José Luis Temes, dont je vous propose d'entendre maintenant un extrait.
Thank you.
Nous venons d'entendre Poema de Madeira de Luis de Pablo, donc interprété par Artza Anayak, jouant de la chalaparta, le Pancook, groupe de percussion, et enfin le groupe vocal de Madrid, le tout placé sous la direction de José Luis Temes. Résonance sur Radio B ou la rencontre de l'autre à travers l'improvisation. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que vous avez eu autant que nous plaisir à plonger dans cet univers mystérieux dans lequel nous entraîne la chalaparta. Résonance donc sera rediffusée mardi prochain de 13h à 14h, puis dimanche de 20h à 21h. Écoutez, podcastez la présente émission, soit sur le site de Résonance Contemporaine www.résonancecontemporaine.org ou sur le site de Radio B www.radio-b.fr. A très bientôt et portez-vous bien avec Radio B.